Bienvenue à tous, nous sommes le mercredi 30 décembre et c'est le mug numéro 272. Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme, j'espère que cette semaine n'est pas trop difficile entre les fêtes de Noël et les fêtes de fin d'année qui se préparent. J'espère que vous avez quand même la forme, que vous n'avez pas trop de difficultés à vous réveiller. Moi, étonnamment, ça allait ce matin, puisque j'étais en congé lundi et mardi, donc je peux vous dire que j'ai flémardé sur mon canapé à lire des bouquins, mais j'ai pas fait grand chose de mes journées, mais ça fait du bien aussi. Mais finalement, j'ai pas eu du tout de mal à me lever ce matin. Je suis ravie de vous retrouver ce mercredi, dernier mug de l'année. Et oui, tout à fait, dernier mug de l'année. Salut, alors attendez, il faut que je règle un petit peu mon chat pour vous voir un petit peu mieux. Parce que je m'en fous de ma gueule, mais par contre, ça m'intéresse. Alors, vous êtes déjà nombreux là dans la chatroom. Salut Samia, salut Alex, salut Tails, salut Andy, salut Judge Fred, salut Frédéric, salut Armand, salut Toloud, salut Golden Rule. Je m'excuse, hein, ce que je rate. Salut Oxo, salut Titus, merci SlyBM pour ton abonnement, un grand merci à toi. Salut Oxymore, très bien, salut Caméléon, salut Vluna. Bon, en tout cas, j'espère que vous. J'ai l'impression que vous avez la forme là. Vous êtes assez réactifs dans la chatroom. Vous avez l'air assez nombreux aussi. Comme quoi, on n'est pas les seuls à se lever ce matin. Donc, ça fait chaud au cœur. Et j'ai un petit programme. Plutôt léger ce matin, hein. Il faut quand même terminer cette année 2020 de manière relaxe, hein. Faut y aller mollo quand même. Et du coup, je vous propose sans plus tarder de commencer avec les news. Alors, on va commencer tranquillement avec des petites rumeurs, hein. Donc, vous le savez, attention à pas le prendre au pied de la lettre. C'est des informations, ou en tout cas des articles, des premières bribes d'informations qu'on a. Donc, on n'a pas trop d'assurance sur les informations que je vais vous partager. Mais en tout cas, ce qui se passerait, ça serait du côté d'Apple. Et oui, on aime bien les rumeurs du côté d'Apple, hein. Vous le savez, on s'en délecte. Et donc, du coup, ce matin, on en profite un petit peu pour en parler. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en termes de rumeurs? Il y aurait un utilisateur, en tout cas sur plusieurs utilisateurs sur Reddit et sur Twitter, qui auraient témoigné d'un petit problème avec, enfin d'un petit problème, d'un problème avec les AirPods Max d'Apple. Alors attendez, AirPod, oui c'est ça, AirPod Max, le casque, hein, donc on parle bien du casque qu'ils ont annoncé récemment, tout récemment, puisque c'était finalement le dernier objet produit qu'ils ont sorti cette année, sans événement dédié, hein, et qui était disponible en précommande, qui est vendu à environ 600 euros par Apple, et donc son prix avait fait grandement parler. Je vous invite à aller voir d'ailleurs la vidéo de Pepe Garcia pour ceux qui souhaitent s'intéresser. Rester se questionner un peu sur la qualité de ce casque. Pepe Garcia a fait un test, donc je vous encourage à aller jeter un œil si c'est quelque chose qui vous intéresse. En tout cas, qu'est-ce qui se passe avec les AirPods Max? A priori, avec une écoute prolongée et un usage prolongé du casque. Vous savez que ce sont des casques qui sont circumorales, donc qui vont entourer l'oreille. Il y a une isolation donc naturelle du bruit extérieur avec justement les oreilles qui sont englobées par les coussinets, puis une isolation logicielle et technologique en tout cas du son pour une meilleure performance, pour une meilleure réduction de bruit. Et en fait, le problème, c'est que les oreilles sont tellement bien isolées que ça crée de la chaleur avec la matière mèche, etc. Et a priori, ça créerait un effet de condensation, ce qui est quand même un petit peu embêtant. Je vais vous montrer un peu les photos qui ont été partagées. Là, vous voyez clairement Donc là, les coussinets ont été enlevés, donc on voit l'intérieur, et donc c'est vraiment à l'intérieur, près donc des pièces de métal et donc des dispositifs technologiques que referme le casque, qu'on voit de la condensation s'est formée. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a des faux. Ça ne veut pas dire que parce qu'il y a des photos, il faut vraiment le prendre au pied de la lettre. Voilà, je n'ai pas vérifié d'ailleurs la véracité ou l'identité de la personne qui est Donald Philemon qui a partagé du coup ces photos sur Twitter. Mais voilà, c'est pas le seul à avoir justement partagé ce genre de problème. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui ont le casque AirPod Max dans la chatroom, n'hésitez pas à partager votre expérience si vous avez eu ce problème. Alors, qu'est-ce qui se passe du coup avec cette condensation? Et ben, du coup, ça crée des problèmes de connexion. Alors attendez, je regarde. Donc oui, ça a bien été fait dans un environnement sec et ça se déroule du coup lors d'une écoute prolongée, hein, avec la chaleur qui s'accumule et les vibrations du coup sonores, ça agite a priori les molécules d'eau et donc du coup ça crée cet effet de condensation. Alors qu'est-ce que ça entraîne? Eh ben du coup ça provoque des dysfonctionnements puisque c'est près des composants électroniques, hein. Les utilisateurs notamment ont témoigné par exemple que les capteurs biométriques fonctionnent moins bien et du coup ça pourrait entraîner notamment des dommages qui soient irréparables puisque du coup ça entraîne de la condensation, donc de l'eau près des éléments voilà, électroniques quoi. Mettez du déo antitranspirant sur vos oreilles, les gens qui suent du pavillon. Voilà le conseil de Lec pour ceux qui ont les AirPods Max. Le problème avec les AirPods Max, c'est le prix. Judge Fred, ben justement, hein, pour ceux qui pensent que le prix est trop cher, je vous encourage à aller voir la vidéo de Pepe Garcia qui montre que justement, c'est loin d'être le casque le plus cher. Donc, il faut relativiser en fonction de la qualité du positionnement du produit. Mais voilà, c'est un petit peu plus problématique. Si à 600 €, ça crée de la condensation au bout de quelques heures d'écoute. Faut un mini ventilo à 175 € vendu par Apple, sinon nous propose Jérôme. Alors, Polychrome 2020 nous dit que lui, il a l'AirPod Max et depuis, il prend sa douche avec. J'ai donc l'eau et la musique intégrée dans le casque. C'est en fait l'avenir des casques Apple. C'est justement de pouvoir prendre sa douche en même temps qu'écouter la musique. Qu'entend-on par prolonger? Bah, a priori, c'est plusieurs heures dans la même journée. On va dire qu'il y a sans interruption. Imagine que tu travailles environ 8 heures devant un écran et que tu fais pas de pause et que tu gardes ton casque dessus, quoi. Mais je sais pas, j'ai pas plus de détails que ça. On peut faire des hypothèses comme ça. bientôt des stalactites. À ne pas utiliser en faisant du sport, sinon c'est l'inondation. Oui, alors justement, ils disent que l'usage, l'utilisation du casque ne s'est pas produite dans un environnement humide, ni ne s'est produit lors d'un usage sportif. Donc, a priori, ce serait un usage normal. Donc, à voir. Pour l'instant, on n'a aucun retour, hein, d'Apple. C'est encore un peu trop tôt. Et encore une fois, à prendre avec des pincettes. Voilà, mais en tout cas, si vous rencontrez le problème, n'hésitez pas à contacter le support Apple, hein. Je pense que c'est le premier réflexe à avoir, et ils pourront vous répondre, vous guider, et s'il le faut, prendre les mesures adaptées pour remplacer l'appareil, je suppose, hein. Parce que ça ne paraît pas normal a priori que ce genre de choses se passent, mais en tout cas, si ça se répand. Si plus d'utilisateurs sont concernés, il est probable que Apple publie un communiqué. Désolée, je lis vos commentaires en même temps, du coup je suis un petit peu déconcentrée. C'est probablement le problème de tous les casques fermés à ne pas utiliser trop longtemps. Bah écoute, moi j'ai pas eu ce problème-là, hein, JudgeThread. J'ai utilisé parce que du coup, moi je travaille devant l'ordi toute la journée, et donc ça m'arrive de les avoir en écoute prolongée. Puis même, enfin, un des usages quand même assez favoris de ces casques à réduction de bruit, c'est aussi lors de longs vols en avion. On va dire qu'en 2020, c'est un peu plus rare, mais voilà. Et j'ai jamais eu ce problème-là, en tout cas. Alors oui, j'avais des pressions, notamment sur le haut de la tête, des petites douleurs aux oreilles, parce qu'à force de porter un casque, ça fatigue. Mais j'avais pas eu cette sensation d'avoir de la condensation qui s'accumulait, ou ce genre de problème de dysfonctionnement, quoi. Ça y est, mais Jérôme et Oleg, on les tient plus là. Ils enchaînent les vannes vaseuses. C'est le nouveau système d'Apple pour pousser les utilisateurs et utilisatrices à faire des pauses dans le travail, sinon ton casque audio s'autodétruit. Bon, est-ce qu'on sait quel genre de musique produit le plus d'eau? Non mais sérieux là, ça y est, vous êtes lâchés. Le XM3, jamais de problème durant longtemps. Ouais, moi j'avais le XM2, moi j'ai pas eu ce problème, non. Pas eu ce problème. Mais tu peux pas enlever les coussinets pour vérifier s'il y a la condensation. Ça dépend des modèles, Angé Carl. Je sais plus lesquels j'avais où je pouvais enlever les coussinets. Je crois que les Jabra là que j'ai, je pouvais les enlever. Mais en tout cas, ce qui est certain, enfin, je veux dire, si ça créait pas de problème, on s'en foutrait, Angé Carl, de la condensation. Là, le truc qui se passe, c'est que si les gens ont enlevé les coussinets, c'est parce qu'ils ont noté qu'il y avait un espèce de dysfonctionnement avec les capteurs, et donc la performance du casque était impactée. Et donc c'est là où ils ont a priori, hein, investigué et qu'ils ont enlevé les coussinets. Moi, j'ai pas eu ce problème-là, donc je me suis jamais posé la question, tiens, est-ce que je peux enlever les coussinets pour investiguer? Donc voilà. Si la condensation créait pas de problème, je pense que voilà, ils auraient pas cherché. Mais bref, on n'en sait pas plus, hein, voilà, aujourd'hui on peut faire juste des hypothèses, on n'a pas d'annonce officielle malgré ce que Jérôme dit dans la chatroom, des informations en ce 30 décembre. communiqué d'Apple, évitez les musiques qui utilisent la note Do. Ben, on est mal barré, hein. Bref, on va pas y arriver là. Je sens que ce mug est mal barré là. Bref, donc voilà, pas d'annonce officielle d'Apple pour l'instant. Il y en a qui nous disent erreur de conception, on ne sait pas. Pour l'instant, il y a eu quelques utilisateurs qui se sont plaints. Donc encore une fois, à prendre avec des pincettes. Est-ce que c'est un emballement d'utilisateurs qui souhaitent à tout prix montrer qu'il y a un problème avec le casque, j'en sais rien, ou est-ce qu'il s'agit d'une vraie défaillance, d'une vraie erreur de conception, ce qui est déjà arrivé à Apple, hein, voilà, ils sont pas parfaits non plus, ça est arrivé à Apple et à d'autres, mais ça n'est pas une excuse, donc on attendra encore un petit peu d'avoir des clarifications à ce sujet. Voilà. Ça va finir avec une gouttière dégueulasse qui dégouline sur ton épaule. J'ai des images là qui sont vraiment pas ragoûtantes. Il y en a qui saluent le jeu de mots de Jérôme. On tombe bien bas là, mouic mouic à tort là. Je me demande si t'as pas tort justement de saluer le jeu de mots de Jérôme. Oui, la Magic Mouse, ouais, on s'en rappelle tous. La souris qui se met sur le dos pour être rechargée, super pratique. On enchaîne avec une autre rumeur qui là vient a priori d'un dépôt de brevet de la part d'Apple. On reste chez Apple là pour les rumeurs, comme je vous dis, hein, là on est en fin d'année, on sent que l'actualité tech gratte les fonds de tiroir pour trouver encore des choses de quoi parler, et donc potentiellement va s'intéresser à des brevets qui sont déposés qui ne garantissent en aucun cas que ça va sortir ou que ça va être dans la prochaine version d'iOS ou d'iPadOS. Alors attention, encore une fois, à prendre avec des pincettes. De quoi on parle ici? Ça serait un brevet pour gérer la gestion de plusieurs utilisateurs sur un même device, donc iPhone ou iPad, qui n'est pas encore disponible aujourd'hui sur ces devices. C'est disponible sur les Mac. Puisque c'est un ordinateur et que c'était quelque chose qui était longtemps utilisé, mais ça n'est pas disponible sur les iPhones et les iPads. C'est vrai qu'on le demande depuis pas mal de temps. Il y a pas mal d'utilisateurs hein, qui le demandent, que ce soit dans les familles pour avoir un iPad, un seul iPad utilisé par plusieurs personnes. Merci beaucoup Doz pour ton abonnement, un grand merci à toi. Plutôt même dans l'environnement professionnel où on peut se servir d'iPad. Que ce soit dans les magasins pour gérer les stocks, pour actualiser ou pour faire du conseil personnalisé. Et donc du coup, on a besoin potentiellement de changer de compte avec des restrictions et des accès différents en fonction des besoins. Bref, à voir, on peut imaginer plein d'usages différents. On peut même penser aux parents qui auraient aimé peut-être avoir plusieurs utilisateurs possibles sur leur iPhone quand ils passent leur iPhone à leurs enfants pour éviter de déclencher des achats inopportuns ou contrôler les applications auxquelles ils ont accès. À voir, hein, il y a déjà des fonctionnalités de contrôle parental, mais peut-être pas aussi développées que justement un accès à différents comptes sur un même appareil. On le sait qu'il y a déjà plusieurs applications qui le font elles-mêmes, c'est gérer au niveau, en tout cas à l'échelle des applications. On le voit notamment avec les applications divertissement, hein, que ce soit YouTube, Netflix, Spotify, il n'y a pas ça, je sais pas. Moi, je remarque que j'ai un compte unique, mais je crois que sur Spotify, quand vous avez un abonnement familial, vous pouvez également changer de compte, ça serait logique. Donc, ça existe à l'échelle des applications, mais ça n'existe pas encore à l'appareil. À l'échelle de l'appareil en lui-même. Donc à voir. Là en tout cas il y a un brevet qui a été déposé. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un brevet va toucher le Secure Enclave. Secure Enclave, c'est un coprocesseur hein, qui est présent sur les iPhones, les Mac et sur les autres appareils Apple, qui gère justement tout ce qui est chiffrement et tout ce qui est tâches de sécurité liées à ces appareils. Et donc du coup, ça permettrait via ce Secure Enclave de gérer plusieurs comptes et plusieurs utilisateurs justement. Et en fait, aujourd'hui, l'authentification, qu'elle soit liée à de l'identification biométrique ou par mot de passe, permet de déchiffrer le contenu d'un device et de donner accès en tout cas à ça. Donc il faut pouvoir gérer ce déchiffrement et le désolidariser pour pouvoir le gérer avec des comptes multiples en tout cas. Donc à voir ça va arriver dans le futur, mais encore une fois, les sociétés peuvent déposer plein de brevets sans donner lieu à des évolutions ou des mises à jour qui sont vraiment qui donnent suite à ces brevets. Donc encore une fois, attention à le prendre avec des pincettes. Alors je lis un petit peu. Le multi-user existe chez Apple dans le monde iOS, mais uniquement pour le domaine éducation, iPad pour les écoles. Merci PavBXL pour la précision, merci à toi. Donc voilà, en effet, le monde de l'éducation, c'est un bon exemple pour avoir justement ce genre de contrôle. Je me demande, mais je sais pas, PavBXL, dis-moi si je me trompe, mais je me demande si ce qui arrive souvent, c'est qu'en fait on installe une application. Qui va être une surcouche peut-être par rapport à l'OS d'origine et qui va permettre ce genre de contrôle. Est-ce que c'est quelque chose qui s'apparente à ça ou c'est vraiment, vraiment à la racine de l'OS où tu peux avoir plusieurs comptes iOS ? Apple ne le fera pas, un seul iPad par famille au lieu de plusieurs, moins de chiffre d'affaires pour Apple. SEM80, je pense que c'est un mauvais calcul de faire ça, parce qu'en fait, encore une fois, c'est un équilibre entre l'usage et les problématiques des utilisateurs et les objectifs business de la boîte. Et c'est pas uniquement dans un sens ou uniquement dans l'autre. Voilà, donc... Il y a des problématiques utilisateurs qu'il faut prendre en compte. Sinon, on n'aurait pas le succès qu'on a aujourd'hui avec certains produits. Donc, ça ne va pas que dans le sens business. Parce que si tu ne prends en jeu que les enjeux business, ça, en fait, tu ne résoudrais pas les problèmes utilisateurs. Et donc, les gens n'auraient aucune raison, en fait, d'utiliser tes produits. C'est une appli, ça s'appelle... Ok, c'est Apple Room Class, voilà. Ça me semble plus logique. Puff VXL, je me souviens plus très bien, quand je travaillais pour APR, on envoyait les iPads chez Apple Man. Oui, ben voilà, a priori, ce que dit... Hop, 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 je lis. Voilà, ce que nous dit Armand, c'est qu'en effet, c'est une appli qui est installée par-dessus l'OS qui s'appelle Apple Room Class, qui permet justement de gérer ça. SEM80, ils vendent 40 millions de devices par an, malgré cela, donc ça marche. Encore une fois, enfin, tu simplifies un peu grossièrement. C'est pas une critique, hein, mais c'est juste pour montrer que c'est un peu plus complexe que ça. Dans une roadmap produit, t'as des priorités à prendre en compte. Et on voit bien que dans la logique Apple, ils ont commencé du plus simple et ils enrichissent au fur et à mesure des besoins en priorisant les problèmes utilisateurs qui sont alignés avec les objectifs business. Et les possibilités techniques également. Avoir développé du multi-user au lancement de l'iPad, ça faisait pas sens en fait, parce qu'il n'y avait pas encore d'usage prouvé. Donc une fois qu'on a bien compris l'usage, on peut réorienter, adapter et itérer sur le produit. C'est comme ça que ça fonctionne hein, dans le système, dans la conception produit. Voilà. Donc c'est tout à fait logique qu'il ne l'ait pas priorisé au début. Et il y avait des choses qui étaient plus prioritaires pour l'iPad, notamment du contrôle parental, etc. Donc voilà, en tout cas aujourd'hui ça n'existe pas a priori, c'est plutôt une application hein, qui est installée par-dessus. Nous on a une application, en tout cas chez Alan, on a une application qui permet de gérer la flotte d'appareils aussi à distance par exemple. Donc ça donne des accès, etc. Ça nous oblige à faire des mises à jour au bout d'un certain temps, etc. Donc ça ressemble aussi un peu à ça. Pas exactement, mais un peu. Donc voilà, en tout cas pour l'instant rien de confirmé, donc à prendre avec des pincettes comme vous le savez, et on vous tiendra au courant évidemment si on a plus d'informations qui arrivent ou des affirmations en tout cas sur ce genre de potentielle fonctionnalité qui ferait vraiment son arrivée. Mais pour l'instant c'est pas le cas, il s'agit juste d'un brevet. On verra dans le futur ce qui se passe. On continue avec la prochaine news et cette fois-ci c'est du côté de Facebook. Alors qu'est-ce qui se passe du côté de Facebook? Eh bien, tout simplement, ils ont décidé de liquider certaines de leurs holdings situées en Irlande. Alors là, ça y est, ça commence à frétiller un petit peu. Tout simplement, c'était des holdings qui permettaient d'optimiser le régime fiscal. Et tout ça, voilà pourquoi. Et ben en fait, ce qui se passe, c'est que les actifs de Facebook Ireland Holdings ont été distribués à la société mère, notamment la propriété intellectuelle. Donc, c'est des licences de propriété intellectuelle pour toutes les technologies utilisées par Facebook, qui permettaient du coup à la filiale irlandaise de Facebook de déclarer elle-même des profits et non pas aux filiales américaines, etc. Donc voilà, et en effet ce qui se passait c'est que Facebook Ireland Holdings, j'ai du mal ce matin, détenait la propriété intellectuelle sur toutes les ventes internationales de la société et les autres filiales tout simplement payaient pour pouvoir utiliser ces licences de propriété intellectuelle. Alors pourquoi ça se passait comme ça? Ben tout simplement parce que le taux d'imposition en Irlande était de 0,7%, ce qui était particulièrement avantageux et ce qui permettait du coup de réduire le taux d'imposition, en tout cas les taxes payées. Et notamment, on avait un exemple. En 2018, la holding a enregistré 15 milliards de dollars de bénéfices. Alors non, je ne sais pas si c'est la holding ou en tout cas Facebook. J'essaie de voir. Il ne précise pas, donc j'ai peur de dire un peu des bêtises. On va dire que c'est Facebook. 15 milliards de dollars de bénéfices sur lesquels elle n'a versé que 101 millions de dollars pour les impôts. Voilà, donc un taux d'imposition de moins de 0,7%. À titre de comparaison, l'impôt sur les sociétés est de 21% aux États-Unis. Et puis bien supérieur dans plein d'autres pays également. Et donc ce qui se passe, hein, ce qu'ils ont annoncé en tout cas, c'est que le gérant américain, ouais, donc Facebook, a annoncé que les licences de propriété intellectuelle qui sont liées à leur opération internationale ont été rapatriées désormais aux États-Unis, puisqu'ils pensent que c'est plus conforme aux modifications récentes et à venir de la législation fiscale que les décideurs politiques préconisent dans le monde entier. En effet, il y a pas mal de changements pour justement contrer cette technique que certains appellent évasion fiscale, mais en fait, ce qu'il s'agisse de l'optimisation fiscale. Puisqu'en fait, ils n'enfreignent aucune règle clairement définie, mais ils font clairement de l'optimisation fiscale comme de nombreuses sociétés aujourd'hui. Voilà. Donc la décision intervient justement à la suite d'une mise en demeure hein, par l'International Revenue Service, c'est de l'administration fiscale américaine, et justement ils leur avaient demandé de payer 9 milliards de dollars d'arriérés d'impôts en février dernier, car ils accusaient la société américaine d'avoir échappé à ces taxes en déplaçant une partie de ses actifs vers sa holding située justement en Irlande. Donc ils ciblaient bien évidemment la holding irlandaise. Cette méthode, comme je disais, elle est utilisée par de nombreuses sociétés, notamment Google et Apple, hein. Facebook n'est pas le seul à utiliser cette technique-là. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je peux vous dire là-dessus? En 2014, Irlande avait décidé progressivement justement de modifier une règle fiscale sous pression de l'Union européenne et des États-Unis. On en avait parlé hein, plusieurs fois dans le mug justement, et les entreprises avaient justement jusqu'à fin 2020 pour arrêter cette pratique. À défaut, elles risquent des amendes. Voilà, à voir maintenant si l'Irlande va vraiment mettre en pratique les menaces de ces sanctions financières face aux autres sociétés qui n'ont pas pris les mesures adéquates justement pour s'adapter aux nouvelles législations. Le tutoriel, optimisation, disons, utilisation du vide juridique. Ben oui, tout à fait. Il y avait un vide juridique et ben, voilà, comme dans plein d'affaires, que ce soit les sociétés, les avocats, bref, il y a plein de choses où on va utiliser un vide juridique pour que ça joue en faveur de la personne qu'on défend ou de la société qu'on défend. Voilà, donc on verra. L'Irlande se fiche du taux d'imposition, c'est les emplois. Oui, non, mais évidemment, Sam 80, évidemment qu'il y avait des avantages. Hein, l'Irlande faisait pas ce taux d'imposition de gaieté de cœur. Hein. Tout simplement, ça les rendait beaucoup plus attractifs à l'échelle internationale et de l'Union européenne. Voilà, enfin, évidemment qu'il y a un intérêt pour l'Irlande, il y a un intérêt pour les sociétés, il y a un intérêt pour l'Irlande. Mais ça ne tient plus. C'est plus vraiment une solution. Et ils ne peuvent plus se défendre face à la critique de l'Union européenne et des autres pays. Donc en tout cas c'est intéressant, je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler et je pense que ça va être très intéressant de suivre un peu l'évolution justement de cette nouvelle fiscalité à l'échelle internationale peut-être, à l'échelle européenne peut-être on espère, moi personnellement je l'espère, je pense que ça ferait une Europe un peu plus solide, mais on verra qu'est-ce que ça ouvre. Oui, après, il y a des espèces de petites menaces qui disent « Ah, mon Dieu, mais si on met en place ça, on pourra plus utiliser Facebook en Europe, etc. » Oui, vu le marché européen, je pense que Facebook aimerait pas trop non plus tourner le dos, quoi. Même si on représente pas... À un moment donné, je pense qu'il faut aussi peser le pour et le contre et voir ce que représente le marché européen pour Facebook. En même temps, on ne s'entend pas sur la fiscalité. Mais je pense que c'est un vrai sujet hein, à l'inspecteur. Je pense que c'est un vrai sujet. C'est loin d'être simple. Hein. Franchement, je suis pas en train de dire que moi j'ai la solution. Mais ça serait intéressant. Même aux États-Unis, les États ont des taux de TVA d'imposition différents. Donc, lorsqu'on critique l'Europe en disant qu'on peut pas être comme les US... Oui, je suis d'accord avec toi, Sam 80. C'est pas... Je suis d'accord, je suis complètement d'accord avec toi. Je suis pas en train de critiquer l'Europe. Je suis en train de critiquer l'Europe, mais je suis pas en train de dire que on est plus faible que les États-Unis ou on devrait faire pareil que les États-Unis, etc. Les États-Unis, c'est un système fédéral avec des États. L'Europe, qui n'est pas un pays, l'Europe a un système avec plusieurs pays et leur propre taux de TVA également. Mais c'est vrai qu'à l'échelle géographique et à l'échelle de marché, j'ai pas tous les nombres en tête. Franchement, je suis pas une experte sur le sujet. On peut mettre en perspective, mais ça reste néanmoins un sujet super intéressant. 20%. Ça crée des problèmes aussi aux États-Unis, hein, ce taux différent de TVA. Il y a des avantages et des inconvénients. Hein. Enfin bon. En tout cas, on vous tiendra au courant, en tout cas, s'il y a des évolutions sur ce sujet, mais ça reste un sujet vraiment super, super intéressant. Autre sujet qui, je pense, va vous faire parler, c'est le nouvel an. Et oui, je pense que j'aime bien, je vais bien aimer vous titiller, là, ce matin. Là, on est à la fin de l'année, là. On en a marre de cette année 2020, on a envie de se lâcher, etc. Eh ben non, on va pas se lâcher, puisqu'il va falloir faire attention, justement, pour les fêtes de Nouvel An, et Apple a montré l'exemple, entre guillemets, puisqu'ils ont retiré une application sur l'App Store qui permettait d'organiser des fêtes secrètes, surtout que c'était quand même particulièrement mal placé avec les mesures de restrictions en place aux États-Unis. C'est une application qui était disponible uniquement aux États-Unis, et notamment à New York, il y a de grandes restrictions et des interdictions sur des grands rassemblements pour justement fêter le nouvel an. Je vous rappelle qu'ils ont même aujourd'hui cette année, en tout cas la fête du nouvel an organisée à Times Square va être à distance, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas la foule qu'on a d'habitude disponible, enfin présente à Times Square, ça sera à distance pour éviter justement les rassemblements, éviter la propagation de la COVID-19. Et surtout avec les chiffres actuels aux États-Unis. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que Apple a retiré l'application Vibe Together qui était disponible justement sur l'App Store et qui encourageait l'organisation de ces fêtes secrètes, et notamment organiser des fêtes pour le nouvel an et pouvoir en profiter, etc. En se rassemblant des personnes de foyers différents dans ces fêtes. Alors l'application se défend en disant non, mais on n'est pas là pour encourager des rassemblements de grande ampleur, hein. On est là pour encourager des rassemblements de petite ampleur dans des endroits clos, sans masque, puisqu'on partagera de la nourriture et de l'alcool, où on a c'est généralement une fête qui est synonyme de lâchage, et donc qui va encourager des embrassades, de la proximité dans des endroits clos, sans aération. Donc tout ce qu'il faut réuni pour booster la propagation du COVID-19. C'est pas marrant, hein, de se dire qu'on va pas pouvoir se rassembler et faire la fête comme on avait l'habitude de faire la fête les années précédentes, mais c'est aussi pour préserver la vie et la santé de certaines personnes, la sienne, mais les autres, celle des autres aussi. Voilà, donc c'est peut-être pas marrant, mais cette application était franchement mal sentie pour les fêtes de fin d'année et le nouvel an. Et donc du coup, voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est fait ban. Je vais vous montrer quand même un petit peu à quoi elle ressemble. Et en plus, la tagline, franchement, c'est « Get your rebel on ». Donc ça a invité vraiment à ignorer les recommandations sanitaires pour le premier de l'an, en se disant « Fuck you, on s'en fout et on va quand même se rassembler ». Ce qui est genre incroyable. Incroyable de stupidité, mais il y en a toujours, hein, pour réinventer la stupidité et les niveaux de stupidité qu'on peut trouver. Voilà, private parties, rebels join the party. Et donc en fait, le principe de l'application était simple, hein, c'est qu'en fait vous pouviez accepter les personnes qui souhaitaient rejoindre votre fête, et donc ensuite les personnes se voyaient communiquer les informations 2 heures avant la fête pour pouvoir rejoindre justement le groupe. C'est une application qui est pas sortie récemment, elle est sortie en janvier dernier, elle s'appelait Trendies à ce moment-là, et donc l'application elle-même a été publiée sur l'App Store cet été. Et elle avait été renommée à cette occasion Vibe Together, mais en tout cas le principe, ou en tout cas le site internet, le produit était sorti en janvier. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus là-dessus? Ils avaient quand même une page de FAQ qui mentionnait quand même le danger de la pandémie, en disant qu'ils encourageaient uniquement les petits rassemblements et pas les grandes fêtes, en disant que justement ils enlevaient de la plateforme ceux qui représentaient des grandes fêtes. Ils donnent pas de détails non plus sur le nombre de participants qui définissaient une grande fête, mais ils auraient dû l'appeler cluster, au moins c'est clair. C'est clair. Et ouais. Merci à tous ceux qui ne le fêteront pas en groupe. Grâce à vous, je pourrais peut-être partir en échange à Hong Kong. Ouais, non, mais Après le pandémie, la pandémie, dans les deux cas, on déguste. Je lis le tutoriel. Ouais, non, mais comme quoi, hein, y a quand même ce genre de choses qui est mis en place et qui ont encouragé quand même les rassemblements lors du Nouvel An. Donc voilà, en tout cas, l'application a été enlevée. Le site Internet est accessible depuis l'article dans les archives d'Internet, si vous souhaitez vous y rendre. Et voilà, Apple a pris action sur cette application. Je ne sais pas si c'est la seule, hein, qui permettait de faire ce genre de choses, mais c'est quand même assez incroyable d'avoir ce genre d'initiative. C'est bref. Je comprends, franchement, je comprends la frustration. Hein. On la vit tous, hein, cette frustration. Hein. Et je grosse pensée aux personnes qui ont la vingtaine, etc. Ou voilà, pouvoir se rassembler, partager ce moment-là avec ses potes, etc. Enfin bon. On est tous frustrés, hein, je pense, et il faut prendre son mal en patience. Et plus on fera attention rapidement et spécifiquement lors de ces fêtes-là, plus vite on pourra potentiellement, voilà, se retrouver en toute sécurité. Chez nous, on sera au top, moi et mes chats. Bah, tu vois, voilà, très bien. C'est une appli qui existait avant, c'est pas pour éviter le confinement et faire un fuck aux règles sanitaires non plus. Arwam, l'application est sortie cette année, avant la pandémie. Enfin, le produit est sorti cette année, avant la pandémie, certes, mais ils ont quand même fait une campagne de pub explicitement pour le nouvel an. Donc, c'est quand même complètement irresponsable dans le contexte actuel. Il faut quand même reconnaître ce qui est quoi. Voilà, donc voilà, je voulais quand même le mentionner, surtout dans le contexte où le nouvel an va se passer très très bientôt. Voilà, on va continuer à utiliser la vidéoconférence, même s'il y a plus fun. Quoique je peux vous dire qu'on a fait quelques petites parties de jeux société en vidéoconférence et on s'est bien marré quand même avec des amis. Voilà. Ça fait un peu Apple, c'est mieux que vous, ce qui est pour votre bien. J'épiffe, oui et non, je suis d'accord, hein, avec ta remarque. Je pense qu'en fait, ils auraient été pointés du doigt s'ils avaient fait aucune, s'ils avaient pris aucune mesure non plus. Et en fait, ils sont quand même une plateforme de distribution, hein. Et c'est comme on attend d'eux qu'ils vérifient la qualité des applications et notamment les autorisations, quelles sont les données qui sont collectées, etc. Il y a une review des applications Apple. On attend aussi que ils encouragent pas ce genre de comportement qui mettrait à danger une certaine population. Voilà. Donc, je suis assez d'accord avec toi. C'est quand même assez étonnant que ce soit des sociétés privées qui en viennent à faire ça. C'est pas un sujet simple. C'est pas un sujet simple, loin de là. Petite news aussi que je voulais vous partager parce que je la trouvais quand même assez intéressante. C'était du côté d'Amazon. Qu'est-ce qui se passe du côté d'Amazon? Eh bien, tout simplement, ils ont ouvert leur API, leur service de map. Tout simplement. Donc c'est vrai qu'Amazon ont développé, hein, et ont construit ce service de cartographie depuis un long moment, hein, tout simplement pour leur service de livraison. À peu près la moitié des livraisons aux États-Unis sont gérées avec leurs propres camions, hein, les propres camions d'Amazon. Et donc c'est vrai que maintenant ils ont développé une API qui permet à d'autres personnes, d'autres services d'intégrer leur service de cartographie et donc de se positionner comme une alternative à Google. Et c'est ça que je trouvais ça assez intéressant. Alors aujourd'hui, on communique pas trop à ce sujet-là, hein, Amazon ne. Bon, alors, il n'y a pas eu trop d'articles à ce sujet où je les ai ratés, peut-être, mais je trouvais ça intéressant où Amazon arrive un peu en sous-marin, où pour l'utilité de leur service de livraison et leur principal, comment dire, business qui est donc le marketplace et la plateforme Amazon en elle-même, ils ont tout le temps essayé d'améliorer ce service de livraison, hein, qui est vraiment un pain point, et ils ont peu à peu gérer l'expérience de bout en bout, ils y arrivent de plus en plus, hein, et pour ça, ils ont développé des outils qui vont maintenant commercialiser potentiellement pour d'autres services qui va leur créer une nouvelle chaîne de revenus. Et donc ça, c'est assez intéressant comme comme stratégie. Et donc là, on le voit hein, maintenant, vous pouvez ajouter le service de cartographie et de localisation à d'autres applications. Donc je vous montre un petit peu. Voilà carrément la page d'Amazon qui mentionne ça. Maintenant, on peut faire ça et ajouter ce service. Introducing Amazon Location Service qui vous permet du coup de gérer la cartographie, l'index des lieux et les trackers pour trouver bah, justement la localisation en temps réel. Voilà. Donc je trouvais ça particulièrement intéressant. J'ai pas plus d'informations à partager pour l'instant. Je voulais juste le mentionner parce que je trouvais ça vraiment voilà, ça montre un petit peu comment petit à petit Amazon grappille et se positionne sur certains cœurs de business qu'on pensait monopole et finalement pas tant que ça. C'est leur propre fond de carte ou c'est uniquement le système de localisation des livreurs qui est propriétaire? Écoute, là en tout cas dans ce que je vois, c'est qu'il y a à la fois le service de cartographie qui permet de créer des cartes et d'utiliser la donnée de partenaires. Et donc là, c'est des cartes et des styles de cartes qui sont fournis par Esri et Here Technologies. Voilà. Donc ça, je ne sais pas si ça appartient à Amazon ou pas. Donc là, on peut en savoir un peu plus peut-être en allant chercher là. Voilà, il parle beaucoup de S3 et Here. Donc à voir si c'est des choses, enfin des systèmes qui permettent d'utiliser des technologies d'autres sociétés, mais avec le système développé par Amazon. Je t'avoue que j'ai pas creusé plus hein, là-dessus. Mais ça a l'air quand même assez intéressant. Très très intéressant. Ah ok, c'est le carte de l'Esri. Voilà. Esri n'appartient pas à Amazon. Merci pour la clarification. Voilà en tout cas pour Amazon. On enchaîne aussi avec une petite news du côté de Google, tout simplement pour parler que aujourd'hui ils ont, Google, alors attendez, je voulais vous charger. Ah, évidemment, je ne vais pas l'avoir sur le store français. Je regarde. Non, je ne l'ai pas sur le store français. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que le Play Store, ou en tout cas le store Google, évolue. Tout simplement, maintenant, Google, en tout cas, sur le site américain, a une nouvelle catégorie sur son store qui est tout simplement les abonnements où ils vont mettre en avant les différents types d'abonnements qu'ils mettent à disposition des consommateurs. Alors on a notamment Shows and Music où on pourra retrouver les abonnements YouTube TV, YouTube Premium, YouTube Music Premium. On a également les abonnements type Gaming où on pourra retrouver Stadia Pro, Google Play Pass. Et on a également les abonnements de stockage et de sécurité avec Google One et Nest Aware. Vous savez, hein, Nest, la marque de Google concernant tout ce qui est home et sécurité, puisqu'on a les caméras de sécurité Nest, etc., etc. Et puis, on a également les plans d'abonnement téléphone avec Google Fi. Voilà, donc là c'est intéressant puisque justement on voit que les abonnements chez Google vont prendre de plus en plus de place et ils vont être de plus en plus mis en avant. C'est intéressant aussi parce que on voit aussi que Google potentiellement va simplifier encore une fois la marque Google et les différentes marques Google où il y a 36 000 noms entre les Google Play Store, etc., les Play Apps et tout, où potentiellement ils vont tout rassembler sous une bannière Google et potentiellement dans le futur on pourrait se demander s'ils vont pas appeler ça juste leur store Google Store au lieu de Google Play Store, etc. Donc voilà, donc c'est vraiment une toute petite news, mais encore une fois c'est comme Amazon. C'est des petites news qui semblent un peu anodines, mais qui montrent encore une fois des changements et des stratégies sous-jacentes de ces sociétés-là. Et je trouve ça assez intéressant quand même de le mentionner, comment ces petits pas montrent la progression et la stratégie globale de la boîte. Donc voilà, encore une fois, on avait parlé que du côté d'Apple, les abonnements, le software devenaient de plus en plus importants, tout ce qui est services, etc. On le voit avec les abonnements sport et fitness que Apple a mis en place avec les Apple Watch, etc. Et pas que avec l'Apple TV et tout. Et là, c'est intéressant parce qu'on sent que c'est également le même mouvement qui se passe du côté de Google. Une certaine logique qui devient une habitude dans ces entreprises. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Donc, très, très intéressant. Voilà pour, en tout cas, Google. Et puis, je voulais terminer les news d'aujourd'hui avec un article qui revient un peu sur les gagnants et les perdants de cette année 2020 dans la tech. C'est un article de USA Today. Je vous encourage à aller lire l'article si vous souhaitez en savoir plus. Moi, je vais vraiment juste l'effleurer un petit peu. Il est dans le Flipboard Naotech, hein, comme d'habitude. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette année a été quand même particulière, très, très particulière, vous le savez aussi bien que moi, on l'a tous vécu, chacun avec nos expériences personnelles, et puis on a partagé les galères ensemble durant cette année, on en a parlé de nombreuses fois. Et ça a été passionnant aussi de partager nos expériences et d'essayer de comprendre quels allaient être les impacts sur ces sociétés tech, mais également sur nos habitudes à nous. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, pour revenir un peu sur les gagnants et les perdants, donc on va commencer un petit peu sur les grands gagnants de cette année. Et même se demander si ça va être des gagnants à long terme. Alors, on a notamment tout ce qui est vidéoconférence avec Zoom qui a quand même une croissance assez impressionnante, hein, qui est passée d'une base d'utilisateurs de 10 millions d'utilisateurs à 300 millions après la pandémie. Alors, attention encore une fois à mettre en perspective puisque c'est pas forcément des utilisateurs uniques, mais des utilisateurs lors de sessions Zoom. Et lorsqu'on travaille à distance, on fait souvent plusieurs sessions de vidéoconférence par jour. Donc en fait, un même utilisateur pourrait faire plusieurs sessions. Voilà. Mais ça n'empêche que ça reste une croissance qui est énorme pour Zoom, qui était inattendu et évidemment grandement encouragé par tout ce qui était distanciation sociale, travail à domicile, hein, télétravail, etc. Et trouver des moyens de rester connecté avec ses collègues, d'avoir des classes et des cours à distance, etc. Ou même de pouvoir se retrouver avec sa famille, etc. Donc Zoom a été un des grands gagnants en termes de croissance pour cette année 2020. Il y a eu également d'énormes bouleversements côté streaming et même on peut aller un peu plus loin côté production de contenu Hollywood et divertissement. Hein. On en a parlé, enfin vous savez que c'est un des sujets qui m'intéresse particulièrement. On en a pas mal parlé ces dernières semaines, mais c'est vrai que... alors. C'est un article américain, ça se voit par le choix qu'ils ont choisi, mais on va prendre, ils ont parlé de Wonder Woman 1984 qui n'est pas disponible encore en France, mais si on prend un exemple que vous connaissez, on peut parler de Soul, le dernier film d'animation Disney-Pixar qui est sorti ce jour de Noël sur les différentes plateformes, sur Disney+, ce qui n'est pas une plateforme différente, mais dans les différents pays. Voilà, donc ça a été une sortie internationale qui normalement aurait dû se faire au cinéma. Et d'ailleurs, hein, les créateurs du dessin animé étaient un peu tristes à l'idée que ce dessin animé n'avait pas la chance de se retrouver sur grand écran. Et j'avoue qu'après avoir vu le dessin animé, j'aurais vraiment aimé le voir sur grand écran également. Mais ça m'a pas empêché d'apprécier le dessin animé. Et donc voilà, c'est vrai que on le voit, ça a été vraiment un signe des temps d'avoir ce genre de sortie qui se fait de manière internationale sur une plateforme de streaming et non plus dans les salles de cinéma. Et donc là, on voit, bah, c'est l'explosion de Netflix, Amazon Prime, Disney+. Alors aux États-Unis, on retrouvera également Hulu, HBO Max, etc. mais ça a été vraiment l'avènement, entre guillemets, de ces plateformes de distribution de contenu qui se battent sur le catalogue et pas sur la technologie en elle-même ou sur la qualité de l'expérience uniquement. Là, on est vraiment sur plutôt des médias, quoi. Quel type de catalogue ils vont mettre à disposition. Et d'ailleurs, on le voit sur les dernières annonces de Disney+, qui vont étoffer leur offre et qui vont proposer notamment une offre qui va être plus adaptée aux adultes, notamment avec la catégorie Stars qui va arriver et le catalogue Hulu qui va être disponible dans Disney+. Alors, encore une fois, à prendre avec des pincettes, puisqu'en France, avec la chronologie des médias, la négociation des droits par pays, etc., on ne sait pas ce qu'on aura droit en France encore. J'ai pris un an de Disney+ pour ma fille et j'ai fini par regarder The Mandalorian. Ben écoute, Sam 80, tu vois, toi aussi, t'es passé du côté obscur. Voilà, donc pour côté streaming, mais c'est pas les seuls impactés évidemment par le climat de cette année 2020. Il y a également la livraison de nourriture. Je pense que vous l'avez vu, hein, la livraison de restaurants, etc. Dans cette période où, notamment en France, les restaurants sont encore fermés, on ne peut pas se rendre au restaurant. Comment faire pour soutenir les commerces locaux, les restaurants qu'on apprécie? Et ben notamment la livraison de nourriture passe par là. Donc tous les services du type Uber Eats, Deliveroo, etc. Pourtant qui étaient sous le feu des projecteurs avec les conditions de travail précaires des livreurs, et ben finalement c'est devenu aussi un moyen de soutenir les restaurants qu'on apprécie. Alors c'est vrai que nous, ça nous arrivait avec Jérôme, on a un resto qu'on apprécie particulièrement à côté de chez nous. Alors là, il se trouve que du coup on passait devant et on commandait directement, on n'utilisait pas les services de livraison, mais d'autres restos qui sont plus loin, qui nous auraient demandé de prendre des transports en commun, etc., bah du coup, on a fait des livraisons, quoi. Et donc, du coup, c'est vrai que ça s'est passé de quelque chose d'assez anecdotique à quelque chose de répandu. De la même manière que commander à la fois chez les restaurants avec des services de livraison, mais également se faire livrer ses courses, puisqu'on a de moins en moins envie de se rendre dans les supermarchés. Rappelez-vous, là, surtout moi, je me rappelle le premier confinement. On n'avait vraiment pas envie de se rendre carrément dans les supermarchés. Et il y a eu un gros boom de livraison de courses directement à domicile aussi. Donc ça, c'est intéressant. C'est aussi une démocratisation de cette fonctionnalité, de ce service-là. Et puis il y a également tout ce qui est service de gaming qui a bénéficié également de ce contexte de confinement et du coup qui a limité les choix de divertissement parce que également, hein, ce climat anxiogène, etc., le fait que nos options de divertissement se sont retrouvées grandement réduites, eh ben, du coup, on s'est reporté sur des choses qui étaient plus sûres et à notre disposition, et notamment tout ce qui est jeux vidéo. Et donc là aussi, ça a été un bénéfice pour tout ce qui était gaming. Mais pas uniquement. On a aussi vu un boom côté service d'exercice à distance ou chez soi. Moi, par exemple, j'ai pris un abonnement sur Down, l'application Down Dog, pour avoir des programmes de yoga comme je le souhaite, ce que j'aurais jamais fait sans la pandémie, hein, ça je vous le dis. Voilà, donc pareil, Apple en a profité, on en parlait, leur abonnement de fitness, etc. Peloton aussi, avec ses produits, ses cours et ses produits de fitness. Et puis également le paiement dématérialisé aussi, qui a eu un boom, notamment avec Apple Pay, Google Pay. Je pense qu'il y a plein de personnes aussi qui n'utilisaient pas forcément les technologies sur leur carte de crédit, de paiement sans contact, qui aujourd'hui l'utilisent. Moi qui ne l'utilisais pas beaucoup, aujourd'hui, quand je peux, je ne fais que ça. Avec aussi la limite de paiement qui est passée de 30 à 50 euros, ça vous permet d'utiliser beaucoup plus le paiement à distance. Et puis, donc ça, c'était les gagnants, on va dire, de cette année 2020. Et puis, il y a les perdants de cette année 2020. Alors, perdants temporaires ou définitifs, ça dépend, hein. On a notamment Quibi. Alors que vous connaissez peut-être pas trop et qu'on connaît pas vraiment en Europe puisque c'est un service uniquement sorti aux États-Unis, qui était initié par les membres d'Hollywood, Jeffrey Katzenberg et la précédente CEO d'eBay, Meg Whitman, qui avait justement cette idée de service vidéo qui permettait d'offrir des programmes courts avec des grands noms de l'industrie du divertissement en payant un prix mensuel. Et donc, en fait, ils ont sorti le service avec des programmes, etc., sans... Enfin, avec un produit fini, sans tester, sans voir s'il y avait un market fit, etc. Et en fait, ils se sont plantés, mais royalement. Aujourd'hui, Quibi est donc mort. Voilà. Autre perdant de cette année 2020, c'est encore les smart glasses. Donc, vous savez, ces lunettes intelligentes de réalité augmentée. Hein. Aujourd'hui, on a un usage qui est relativement limité encore, peut-être plus dans le domaine professionnel. On n'a pas encore prouvé l'adoption au grand public. On a eu notamment les spectacles qui ont grandement fait parler d'elles d'un point de vue marketing, parce que Snapchat est quand même assez bon d'un point de vue marketing, mais qui n'a pas eu de grande adoption depuis. On a eu notamment Amazon aussi qui avait parlé des Alexa Glasses qui étaient en test en 2020, mais aujourd'hui on n'a pas de nouvelles par rapport à ça. Bref, on n'est pas encore sur quelque chose de très très mûr concernant le marché des lunettes connectées et augmentées. On a également TikTok hein, qui a eu une année difficile. Alors difficile parce qu'ils ont essayé de se faire, enfin, ils se sont fait un peu limiter, restreindre par le gouvernement américain, interdire également, tenter d'interdire, etc. Donc ça a été un peu une année compliquée pour TikTok. À voir ce qui va se passer en 2021 pour eux. Hein. C'est pas encore fini, faut pas encore les enterrer. Et puis on a également la réalité virtuelle qui aujourd'hui n'est pas encore sur quelque chose de suffisamment mature. Là encore, ça ne veut pas dire que c'est mort, mais on n'a pas encore d'usage grandement émergé. Ici, on n'a pas encore de service grand public, même si on a de la popularité côté Facebook Oculus, mais on n'est pas encore sur une grande adoption. Et puis, les derniers perdants de cette année 2020 que mentionne l'article, et c'est intéressant, c'est évidemment tout ce qui est service de VTC, hein, Uber, Lyft, qui a eu une année particulièrement difficile, puisque évidemment, on s'est beaucoup moins déplacé et on a eu donc le confinement, le télétravail, etc. Plus de divertissements à l'extérieur auxquels se rendre, plus de concerts, je suis la première à en parler, plus de concerts, plus de sorties resto, plus de fêtes, voilà, enfin, toutes ces sorties qui étaient des occasions aussi pour prendre des VTC, ben, se sont vues grandement limitées, et donc évidemment, les services d'Uber et Lyft ont été grandement impactés, on l'a vu hein, avec Uber qui a dû se séparer de plusieurs sections, qui étaient plus prospectives, ils s'en sont séparés. Donc voilà, année compliquée, une vraie opportunité pour certains et compliquée pour d'autres, mais c'était intéressant de revenir un petit peu, de faire un bilan là-dessus. La réalité virtuelle, la réalité augmentée, ça fait 5 ans qu'on dit que c'est l'avenir, mais que c'est jamais le présent. Je pense que Vincent... Il y a plusieurs choses hein, qui rentrent en jeu. Il y a la miniaturisation de la technologie qui était un problème. Rappelle-toi les premiers casques, etc., qui étaient beaucoup trop lourds et qui du coup, vraiment impacté ton expérience de manière négative. Il fallait avoir des câbles, etc. Tu n'étais pas forcément libre de tes mouvements comme tu l'es. Donc il y a une notion de miniaturisation hein, de la technologie, d'évolution. Il y a aussi trouver les usages et faire changer les habitudes des gens. Tu vois, travailler... moi, je l'ai vu avec un collègue qui m'a notamment parlé d'un... Qu'est-ce qu'il avait utilisé ? Il avait utilisé la réalité... je sais plus si c'était augmentée ou virtuelle, pour être honnête, mais pour réparer une machine à laver... où il avait utilisé justement un... je crois que c'était plutôt... c'était pas vrai, c'était un mix, je crois, qu'il partageait sa vision du casque avec le réparateur et qui lui disait en temps réel qu'est-ce qu'il devait faire. Ouais, c'était un peu... c'était guidé, quoi. C'était pas vraiment la réalité virtuelle augmentée. Mais c'est intéressant, hein. Je pense qu'il va y avoir du temps aussi à prendre en compte pour ça. On n'y est pas encore, je suis d'accord avec vous. Bref, voilà pour les news. Et puis juste avant de passer Marion qui a essayé l'Oculus Rift en 2013. Juste avant de passer à notre cerise sur le croissant, je voulais vous mentionner notre partenaire encore, notre sponsor du mug, c'est Shadow PC. Vous le connaissez, le PC dans le cloud. Là encore, un nouveau usage hein, qui tombe dans le gaming. Donc, si vous êtes intéressé, je vous encourage à regarder les modalités de participation directement dans la description de l'émission ou tout simplement dans le chat, puisqu'on a notre bot ou Samuel qui partage justement comment participer au concours. Vous avez l'opportunité de gagner un mois gratuit d'abonnement à Shadow PC pour le tester en conditions réelles chez vous. Et puis, le concours est valable chaque semaine. Donc, si vous n'avez pas gagné cette semaine, vous pouvez tout le temps retenter votre chance chaque semaine. Et le prochain tirage au sort se fait le 8 janvier de l'année prochaine. Voilà. Je vous propose de passer à la cerise sur le croissant. Et voilà, c'est la fin de l'émission, mais je voulais quand même vous partager quelque chose de rigolo qui a fait le buzz, hier aux États-Unis. Il y a eu plein d'articles qui sont sortis là-dessus. C'est les robots de Boston Dynamics. Eh oui, alors on vous en parle. Alors cette fois-ci, rassurez-vous, c'est pas une vidéo flippante. Alors certains pourront la trouver flippante parce que c'est assez impressionnant quand même, mais elle est plutôt de bonne ambiance quand même. 358 followers, tout le monde bosse ou s'est levé pour Marion. Merci, 350. Bravo à ceux qui regardent et ceux qui sont levés et ceux qui bossent aussi. Hein. Et donc voilà, je vais pas pouvoir mettre le son parce que sinon on va se faire ban, etc., etc. Mais je vais quand même vous en montrer un extrait parce que c'est assez rigolo, mais vraiment, si vous êtes intéressé. Et d'ailleurs, Samuel, si tu peux partager directement le lien, ça sera plus parlant que de vous partager mon écran. Mais ça vaut vraiment le coup parce que la musique vaut le coup. C'est la chanson Do You Love Me. Donc pour ceux qui connaissent Dirty Dancing, c'est une des chansons mythiques de la bande originale du film Dirty Dancing, où il y a des pas bien précis, etc. La vidéo est à ne pas rater. Alors du coup, je vais essayer quand même de vous montrer un petit peu la vidéo. Et on voit des robots donc de Boston Dynamics qui dansent sur le titre en synchro avec le titre. Donc ils ont fait un montage. Hein. C'est pas un plan séquence des robots qui dansent. On voit clairement qu'il y a eu des cuts et un montage. C'est quand même assez rigolo. Surtout la synchro avec la musique qui est quand même bien foutue. Donc au début, c'est pas super impressionnant. Mais alors, plus on avance dans la vidéo, plus c'est chouette. Et là, on voit justement au début, il n'y a qu'un robot. Et puis après, on voit qu'il y a un second robot qui danse en synchronisation avec le titre. Et puis après, il y en a un troisième qui arrive. Et chacun, à sa manière, va danser sur le titre. Et donc, il y a un quatrième également qui arrive, qui était juste à côté, vous allez voir. Et ouais, il y a des espèces de figures et tout qui fonctionnent bien. C'est assez rigolo, quoi. Vous voyez le quatrième robot qui est derrière, qui danse également. Donc là, ça rend pas grand-chose, encore une fois, sans le son. Vraiment, l'intérêt principal de la vidéo, c'est vraiment avec le son, avec le titre. Donc je vous encourage vraiment à aller jeter un œil. Mais franchement, moi, j'ai trouvé ça bien foutu. Alors après, c'est pas parfait, hein, parce que ça reste des gestes robotiques. Ça manque de fluidité, qui est vraiment... une des composantes hein, de cette danse, mais c'est assez incroyable quand même, la variété de mouvements et la capacité à reproduire certains gestes de la chorégraphie de ce titre, moi qui m'ont fait écho un petit peu à Dirty Dancing, ça reste un film assez mythique. Ça reste toujours très impressionnant, ouais, tout à fait. Alors non, il n'y a pas le porté de Dirty Dancing version robot, c'est pas la même chanson. C'est pas la même chanson, Pierre-Yves. Attention, hein, faut pas confondre. Hein. C'est pas la chanson mythique de Dirty Dancing, The Time of My Life, qui est à la fin du film où il y a le fameux porté, etc., qui est repris par de nombreux films de comédie romantique d'ailleurs. Mais c'est un autre titre qui est très très chouette, un autre titre très chouette de la BO de Dirty Dancing. Les ingés ont dû s'éclater à faire ça. Ouais, ouais, n'empêche, c'est une sacrée prouesse, hein, d'avoir fait ça, d'avoir programmé ça, quoi. Tout à fait. Et voilà, bah écoutez, c'était la fin de l'émission. Il est 9h04. Et voilà, je vais rester 2-3 minutes juste pour voir vos commentaires. Impressionnant qu'ils arrivent à danser vu que leurs mouvements sont d'abord faits pour nous traquer et nous éliminer. Le petit commentaire flippant de Lek en ce mercredi 30 décembre 2020. Exactement, ouais, c'est la chanson où ils twistent ensemble dans la salle de danse, ouais, tout à fait. Ouais, je crois que je me demande si elle n'y est pas à plusieurs endroits, à plusieurs moments. Non, parce que c'est aussi la chanson, une des premières chansons, il me semble. Je suis pas sûre, hein. Je vous avoue, ça fait un petit moment que j'ai pas vu le film. Je crois que c'est une des premières chansons du film où il rentre dans la salle de danse alternative et les danses sont assez chaudes. Je sais plus, je me rappelle plus. Ça reste assez fluide pour des robots, ouais. Ils nous distraient pour mieux nous éliminer. Ah, c'est aussi la chanson où elle s'éclate sur le petit pont toute seule. D'accord. C'est au début du film quand elle rencontre Jenny pour la première fois. Voilà, Christophe, je pensais que c'était ce moment-là aussi. Il me semble que c'était ce moment-là aussi. C'est possible qu'il l'ait plusieurs fois, hein, dans le film. Attendez leur vidéo sur la BO de Terminator, vous allez les trouver moins cute. Ils ont transféré les mouvements des danseurs, il n'y a pas de programmation, c'est comme les machines CNC. D'accord. Merci Macalga pour la précision. Bon, bah écoutez, sur ces belles paroles, pas flippantes du tout. Alors certains pourront les trouver cute, certains pourront trouver les flippants. C'est un peu cette année, tout en dualité. 2020 était une année de merde ou une super année. à vous de choisir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vous souhaite une excellente fin d'année. Voilà, et j'espère que vous allez quand même pouvoir la passer dans une bonne ambiance avec les personnes que vous appréciez à distance ou ensemble, si vous faites partie du même foyer. Et puis voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Pour le futur, je vais rester vague, je ne veux pas porter de malheur, etc. On se retrouve du coup l'année prochaine, la semaine prochaine pour le prochain mug. À bientôt et on se retrouve également pour un petit apéro demain, quand même, avec Jérôme. On va prendre l'apéro avec vous comme on l'a fait le soir du réveillon. Bye bye, très bonne année à tous!